président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver aux prophètes. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, à quoi trouve la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je jouais le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'y vais à peine la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'à laisser ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura cherché de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, à quoi trouve la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à ça tout. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Serge des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, à quoi trouve la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, à quoi trouve la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel, nous sommes dans la dernière émission de la saison. Et aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel qui vient de Brest. David, bonjour.
Bonjour.
Alors David, tu es venu nous parler d'une BD faite par ton père, Christine Foinon.
Oui, tout à fait. La BD s'intitule Gueule d'or.
Elle est éditée chez KF Éditions.
Oui.
Pour Christine Foinon Édition.
Tout à fait.
Bien. Alors, Brest, au cas où nos auditeurs ne le sauraient pas, a été un foyer de rébellion anarchiste très célèbre au début du siècle. Et depuis le siècle dernier et jusqu'au début du siècle, jusque, mettons, les années 50, on dira.
Oui, à peu près. Ouais, peut-être un petit peu après, mais...
Oui, jusqu'au Conseil National de la Résistance, à peu près, on dirait. Voilà. Et ton père, qui est né en 1958, s'est battu pour faire une BD qui raconterait l'histoire de deux hommes, et surtout d'un en particulier, qui va parler, dont le nom va dire quelque chose aux plus anciens d'entre nous, c'est Jules Le Gall.
C'est ça, Jules Le Gall et Victor Pingam.
Voilà. Bien. Alors, Jules Le Gall dit « gueule d'or ». J'ai bien résumé ?
Tout à fait.
Voilà. Donc, présente-nous ton père et son travail. Comment Il est devenu artiste et ensuite il lui est venu l'idée de faire cette BD sur ces deux personnages.
Le fait qu'il soit devenu artiste, je pense que c'était le goût du dessin tout simplement et puis un talent incroyable, j'ai envie de dire. Et après l'idée de faire cette BD, je pense qu'elle est venue parce que malheureusement il a su qu'il était malade. Et étant syndicaliste et anarchiste, il a voulu raconter par le biais d'une BD qui cumulait, je pense, ses idéaux et son talent pour comme un testament quoi, pour léguer quelque chose et raconter une histoire qui
pour les générations futures.
Oui, et puis surtout, je pense, pour raconter. L'histoire de sa ville est quelque chose que pas grand monde, à mon avis, connaissait à l'époque.
Alors oui, justement, je suis allée à Publico, la librairie anarchiste, notre librairie, 145 rue Amelot, et effectivement, sur le mouvement de Brest, il n'y a que deux livres. Il y a le Havre 1922, la grande grève de la métallurgie, et il y a le deuxième...
Oui, nous ferons la grève générale de Jean-Yves Guingamp.
Voilà. Donc, c'est dire que peu de gens se sont intéressés à ce mouvement de résistance des anarchistes à Brest.
C'est ça.
Voilà. Alors, tu peux présenter Brest. C'est une ville portuaire avec un arsenal.
C'est ça, tout à fait. Après, c'est une ville en général plutôt socialiste depuis pas mal de temps, je pense. Même à l'époque, elle était socialiste. Après, oui, c'est une ville portuaire, port de commerce, pas mal de transactions de céréales, etc. Gaz naturel aussi, il me semble. Après, c'est une ville qui a été complètement détruite durant une bonne partie du moins du centre-ville a été détruite par la Seconde Guerre mondiale. Donc il a fallu tout reconstruire. Donc après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est une ville assez particulière parce que quand on se balade en centre-ville, tout est assez longiligne. Je trouve quand même que c'est une ville assez terne par ses bâtiments en général. Après, je parle vraiment du centre-ville en particulier. Hein. Après, il y a des quartiers qui sont pour moi assez différents les uns des autres. Mais bon, après, ça, je ne vais pas trop détailler.
Alors, on va présenter ton père. Dans la BD, Gueule d'or, on a deux pages pour le présenter. Christine pour Christian. Donc, il est bretonnant, ton père.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'à l'époque, quand il a commencé à fréquenter ou à s'intéresser du moins aux Bretons, la mode était de bretoniser son prénom, d'où le Christen, quoi, qui veut dire Christian, en fait.
D'accord. Alors, il a milité au groupe libertaire Armand Robin.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Ensuite, au début des années 80, avec le groupe Les Temps Nouveaux.
Oui.
Alors ça, Les Temps Nouveaux, ça me parle, parce que quand on lit la BD, on voit que c'est Jules Le Gall qui a fondé Les Temps Nouveaux.
Oui, tout à fait. C'est après, moi, je suis pas trop connaisseur sur ça, mais oui, c'est vrai que c'est un groupe qui a une résonance lointaine, quoi. Ouais, bien sûr.
Bien. Ton père est mort.
Oui.
Très rapidement.
Oui, à l'âge de 37 ans, en 1996, j'avais 8 ans. Ça reste assez dur pour moi quand même d'en parler, mais oui, il est mort d'une tumeur au cerveau, en fait, assez rapidement, en 5 ans à peu près. On a su que c'était
fini,
que c'était plus possible. Ouais, ouais.
D'accord. Alors, vous avez fondé une association, les Amis de Christine Foinon, pour éditer la BD et soutenir le projet éditorial de cette BD.
Oui.
Qui sont les Amis de Christine Foinon?
Alors, donc j'en fais partie évidemment, et c'est surtout des amis de mon père. En fait, cette histoire, elle débute pendant le premier confinement. en 2020, du coup. Quand j'ai rencontré des amis de mon père qui s'appellent Vincent et Joël sur un parking, et ils m'avaient en me voyant, ils m'ont tout de suite parlé de la BD en disant que ça faisait longtemps qu'ils avaient cette BD là incomplète et qu'ils voulaient vraiment qu'ils avaient vraiment l'envie de l'éditer, quoi, de la faire connaître au grand public. L'association, il y a aussi donc des connaissances à ces amis-là, dont Bruno et Valérie. Bruno, il travaille dans le monde de l'édition, donc ce qui nous a quand même permis d'avoir un fil conducteur, une ligne directrice pour savoir où on allait. Et puis avoir quand même pas mal de contacts. Et puis forcément il y a la graphiste Marine Summer City qui a sans elle on n'aurait pas pu finir la BD.
Alors présente-la et présente son travail, ouais. Parce que elle est en première page. Enfin elle est citée sur la BD carrément.
Ouais, tout à fait. On a voulu la citer parce que déjà c'est une amie. Moi je l'avais connue quand j'étais lycéen. Il me semble que c'était en 2008 ou 2009, je ne me rappelle plus bien, mais donc c'était une amie avec qui je m'entendais bien. Et puis elle est quand même militante, donc elle connaît toute l'association depuis quand même aussi un petit temps. Mm-hmm. Donc oui, on trouvait ça juste qu'elle apparaisse en couverture, hein, bien sûr.
Alors quel a été son travail, quel a été son apport sur la BD faite par ton père?
Alors c'est un peu difficile d'expliquer sans la BD.
La BD Gueule d'Or, elle est à Publico. Oui. Elle a été déposée par une amie à toi.
Tout à fait.
Que je salue.
Voilà,
et on peut l'acheter au prix de 15 euros, elle est magnifique, c'est pour ça que je l'ai vue à Publico et donc je l'ai achetée et j'ai décidé de t'inviter pour en parler parce que cette répression des anarchistes, on en parle très peu.
Bien sûr.
Et il fallait peut-être la faire connaître au grand public, donc la Radio Libertaire est là pour ça.
Et merci d'ailleurs.
Hein. Voilà, mais je t'en prie. Alors, revenons à Madame...
Oui, du coup, alors pour son travail, en fait, si vous voulez, tous les contours des bâtiments, des personnages, tous les dialogues et tout ça étaient finalisés. Mm-hmm. La mise en page aussi. Les pages étaient toutes numérotées. En fait, la seule chose qui l'empêchait d'être édité, c'était la colorisation. Alors la BD est en noir et blanc.
Oui.
Mais pour que ça soit agréable à l'œil nu et compréhensible, il faut ajouter du noir. Si vous voulez repasser par exemple un bâtiment en noir et puis faire les jeux d'ombre.
D'accord.
Voilà.
Et ça a été donc le travail de Marine.
C'est ça.
Et de faire tout ce travail. Et ça lui, et apparemment, vu la BD, ça lui a pris un sacré bout de temps.
Oui, je pense qu'elle a dû bien s'embêter avec ça. Environ 300 heures, quand même.
300 heures,
ouais.
Ah oui,
ouais.
Effectivement.
Ah ouais. Donc pour expliquer un peu la façon dont elle a fait ça, à la tablette numérique.
D'accord.
Voilà, en jouant sur des zooms, et puis voilà, parce qu'elle a dit clairement que si elle avait dû faire ça à la façon manuelle, au crayon ou à l'encre de Chine, elle l'aurait pas fait.
Ah d'accord.
Ouais. Parce que quand même, ce qui représente un travail monumental. Parce que en fait, si vous voulez, mon père à l'époque, donc il n'y avait pas d'ordinateur, donc la tablette graphique n'existait pas.
Oui. Il a tout fait à la main.
Il a tout fait à la main. Voilà. Moi, j'ai pas mal d'originaux de cette BD là chez moi. Je dois les avoir tous, mais bon, j'ai pas bien regardé en détail. Mais tout était sur calque, au crayon gris.
D'accord.
Voilà. Et si vous voulez, avant cette étape-là même, il y a, donc on voit ça dans la BD, il y a un carnet avec des croquis qui racontent l'histoire, les dialogues, les personnages, tout ça. Donc même avant d'entamer la BD...
Il a fait un travail préparatoire.
Oh, c'est ça, tout à fait, un travail préparatoire. Oui.
Il y a une photo de ton père à Brest avec un ami. Donc, en fait, il y a deux choses qui ont aidé ton père dans cette BD. C'est son talent de dessinateur.
Oui.
Il est incontestable. Vraiment, j'ai rarement vu un tel graphisme.
Merci.
J'avoue que c'est la première chose qui m'a frappée,
oui,
et pour laquelle j'ai acheté la BD tout de suite.
D'accord.
C'est que ton père a un talent fantastique.
C'est vrai.
Fantastique.
C'est vrai.
Fantastique. Et l'histoire.
Oui.
Parce que Jules Le Gall a une histoire qui épouse l'histoire du siècle. Il est né 10 ans après la Commune, 1881. Il est né dans une famille qui avait qui s'en sortait à peine.
Tout à fait, oui.
Voilà. Et son père meurt, comme le tien.
Oui.
Et il a 8 ans, justement. Il a une dizaine d'années.
C'est ça, ouais.
Voilà. Et il se retrouve, comme il le dit à un moment donné, on vit avec 18 sous par jour.
Oui. Oui, c'est
à 4.
Oui, oui, c'est tragique. C'est malheureusement ce qui devait être l'habitude de beaucoup de familles, je pense, à cette époque-là. Parce que, enfin, bon, je connais pas les chiffres exacts, mais il était ouvrier à l'arsenal après. Son père, je sais plus ce qu'il faisait comme travail, mais c'était vraiment des travaux qui payaient très mal.
Mm-hmm.
Et puis bon. Si on ajoute ça, par exemple l'alcoolisme, ça devient plus que misérable comme vie, quoi.
D'accord. Alors Gueule d'or, édition Christine Fanon. On va rentrer dans le livre proprement dit. Alors tu as deux pages sur Jules Le Gall et les anarchistes à Brest en 1907. On a une photo de la photographie la plus connue de Jules Le Gall.
Oui.
Elle est connue parce que on l'a dans quasiment tous les livres qui sont. C'est cette photographie. Donc il n'y en a pas énormément de lui.
Non, je ne dois pas en avoir beaucoup, non.
Voilà. Alors, on dit bien que sa vie, elle est étroitement liée à celle des luttes ouvrières et du mouvement anarchiste de Brest. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, c'est le meilleur moyen. C'est de prendre la BD, de la lire, et ensuite, éventuellement, d'aller à Publico et d'acheter les deux autres ouvrages, Le Havre 1922, la Grande Grève de la Métallurgie, et...
Et nous ferons la grève générale.
Voilà.
De Jean-Yves Guingamp.
Tout à fait. Bien. Donc, ce qui est de bien, c'est que vous avez réussi à récupérer des tracts de l'époque.
Oui, c'est ça. Alors, il y a un tract qui est du côté ouvrier, en fait, qui appelle à la grève générale, en gros, à l'insoumission, un peu. Et de l'autre côté, enfin, et juste à côté, un autre tract, mais cette fois-ci de la mairie, qui incite au calme et justement à ne pas se révolter.
Et qui dit même que la retraite au flambeau est supprimée.
Tout à fait.
Bien. Et il y a une photo du rassemblement des grévistes avec leur drapeau dans la troisième page.
Oui, c'est ça. Il me semble que cette photo a été prise un peu plus tard par rapport à au fil conducteur de la BD qui s'arrête à l'appel de la Première Guerre mondiale, en fait.
D'accord. Voilà. Alors, les anarchistes à Brest, ils ont eu 3 adversaires, si j'ai bien résumé. Ils ont eu d'abord les patrons.
Oui.
Les militaires et l'État. Il y a un certain Clémenceau à sa tête.
Oui, c'est ça, oui. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, la mairie était socialiste et qui n'a pas empêché les répressions qu'on explique.
Violentes.
Ouais, très violentes. Hein, ça n'a rien à voir avec des répressions comme aujourd'hui, même si on pourrait...
Faire un parallèle.
Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Mais oui, là, c'était pas à coup de matraque, mais à coup de sabre. et pas et sur
et à base et à balles réelles.
Et à balles réelles, et puis ouais c'est ça, c'est ce qui est quand même effroyable.
Bien. Alors, on va commencer par la vie de Jules Le Gall. On va donner les dates. Donc, 1881, il naît 10 ans après la Commune. Et à 22 ans, il réussit à prendre la tête de la CGT avec Victor Pingham. Donc, il décide, il comprend qu'il faut une maison du peuple, indépendante de la mairie, de l'église, de l'usine. Et donc, il se bat pour avoir cette maison du peuple. Et il l'a en 1924.
Oui, il me semble qu'elle est achevée en 1924. Oui.
Voilà. Et ensuite, Brest, avec l'aura de cette maison du peuple, des réunions, du mouvement, ça va devenir quelque chose de reconnu. Et d'ailleurs, on le montre bien, ton père le montre bien dans la BD, parce qu'il y a des anarchistes espagnols, des anarchistes italiens, et même un certain Macno, qui vont se replier à Brest.
Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai. Et notamment dans le livre de Jean-Yves Guingamp, on voit une photo avec des anarchistes italiens, justement, à Brest, qui illustre bien ça aussi. Et, ouais, tout à fait.
Voilà. Donc, Brest a eu une histoire anarchiste et elle a sombré dans l'oubli. Et la BD de ton père, le travail de ton père, c'était vraiment de sortir cette histoire anarchiste de l'oubli.
Oui, c'est ça. Bon, déjà, il était syndicaliste, anarchiste, donc et il a voulu faire connaître cette histoire. Parce que ça le touchait profondément, et puis je pense qu'il trouvait pas ça normal
qu'elle soit oubliée des livres.
Qu'elle soit oubliée, parce que c'est quand même Le Gall était quand même quelqu'un d'important qui se battait pour les autres aussi. Donc je pense qu'un altruisme pareil, ça doit se faire connaître autant que quelqu'un d'autre qui œuvre pour l'égalité, tout simplement.
Alors, Le Gall, par ses activités, et notamment parce qu'il a fait le 27 avril 1907, a été exclu de l'arsenal, parce qu'il a été condamné à de la prison, 3 mois de prison, oui, ce qui valait exclusion de l'arsenal, à partir du moment où il était condamné.
Oui, c'est ça. Il a été emprisonné pour incitation à la révolte. Donc, il a été arrêté le 27 avril 1907 au quartier de Saint-Martin, qui est le centre-ville de Brest, du coup. Et du coup, oui, pour parler de cette journée, dans la BD, en fait, l'arrestation se passe à l'arsenal, qui n'était pas vrai, mais on a voulu, de toute façon on pouvait pas le changer, mais on a voulu vraiment respecter ce que mon père avait fait, en sachant que il avait sans doute eu vent des erreurs qu'il avait pu connaître dans la BD, car j'ai retrouvé un carnet qui indiquait le changement justement des erreurs. Mais malheureusement, je pense qu'il n'a pas eu le temps de finir ça, de changer ça.
Alors ensuite, il a Jules Le Gall, avec la générosité de son entourage, peut ouvrir une librairie.
Oui, tout
alors
à fait.
Ça nous parle parce que nous avons notre librairie Publico. Oui. Donc ils ont compris déjà à l'époque qu'il était important de diffuser ses idées, d'où l'idée d'une librairie. Il aura une quincaillerie plus tard, mais la librairie, ça a participé à faire de Brest le centre anarchiste de cette partie-là de la France.
Oui, bah tout à fait, parce que évidemment, je pense que la diffusion des idées anarchistes se passe par la lecture à l'époque. On n'a pas les moyens modernes qu'on a aujourd'hui, donc et puis c'était un bon moyen, je pense aussi pour se sortir du joug de l'arsenal et des militaires qui étaient quand même un peu tout puissants à Brest à l'époque.
Quoi. D'accord. Alors la police, on a retrouvé ton père a retrouvé dans les archives de la police Une caractéristique de Jules Le Gall, on le disait, éducateur de la jeunesse syndicaliste, anarchiste, orateur violent.
Bah oui, oui, forcément, on va dire qu'il mâchait pas ses mots. Dans la BD, il y a plusieurs citations qui appellent vraiment à la révolte sanglante, on peut le dire ça comme ça. Quitte à mourir, autant mourir libre. Après, c'est pas ses paroles, mais bon, c'est ça que ça veut dire, quoi.
Oui, 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 et ton père le montre très bien dans la BD.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Voilà. Alors, on va passer sur comment dire, sur la période 1907-1911. La répression, proprement dite, elle a comme conséquence de déstabiliser jusqu'à Paris. Parce que cette révolte de Brest, elle a déstabilisé jusqu'à Paris. Parce que ton père le montre dans la BD. On fait intervenir les autorités qui en réfèrent à Paris.
Oui.
Donc c'était pas rien cette révolte.
Oui, bah en plus comme ça arrive quelques années, enfin dizaines d'années après la Commune de Paris.
Ça fait peur aux bourgeois.
Ça fait peur aux bourgeois, oui, oui. Et puis comme on a vu ce que ça avait donné à Paris, il fallait écraser
dans le sang.
Dans l'œuf, on peut dire ça, toute révolte, quoi.
D'accord. Alors, je voudrais que on en vienne à la première planche.
Oui, sûr.
De la BD. Elle est intitulée Brest, le 27 avril 1907, la sirène de l'Arsenal. Le 27 avril 1907, c'est vraiment la journée fondatrice dans la vie de Le Gall.
Oui.
Tu peux nous expliquer ce qui se passe pour lui ce jour-là ?
Bah, il est arrêté, du coup, donc forcément, ça implique qu'après tout ce qui en découle,
À l'issue d'une révolte.
Ouais, voilà, du coup, à l'issue des manifestations qui s'étaient passées.
Où il a pris la parole et il a eu un discours vibrant qui a soulevé la population. Et donc, la police comprend qu'il faut l'arrêter à ce moment-là.
Voilà, c'est ça. Bah, après, bon, les perturbateurs, vaut mieux les arrêter, les écarter du groupe. Ça s'est toujours passé comme ça. Ça se passe toujours plus ou moins comme ça. C'est vrai que c'est facile pour le pouvoir en place de cibler les leaders, j'ai envie de dire, que d'arrêter 1000 ou 2000 personnes. Et puis oui, forcément, ça a été fondateur, cette arrestation, parce que après il a été viré de l'Arsenal et du coup il a dû être obligé de
vivre autrement.
De vivre autrement, oui.
Voilà. Sachant qu'il avait réussi à arriver à un niveau de salaire élevé. Il était pas loin du plafond qu'il pouvait atteindre pour sa qualification.
Oui, alors ça, je...
Oui, ton père l'a dit dans la BD.
Ouais. Après, bon, je ne me rappelle pas de tout, mais bien sûr. Ouais.
Voilà. Alors, la première page, elle est saisissante. Ce dessin de la ville, les chevaux... Et ensuite, proprement dit, on sent que ton père a voulu d'entrée nous mettre...
Nous plonger dans la ville de Brest, ouais.
Oui.
Oui, tout à fait, ouais. Après, l'Arsenal, ça reste un peu moins maintenant, parce que c'est très militarisé, et qu'on n'a pas du tout accès
c'est une zone protégée, c'est une zone secret défense.
Voilà, c'est ça, je veux dire, on peut pas se balader dans l'Arsenal comme ça. Bon, on l'aperçoit un petit peu. Bon, maintenant, il y a
C'est un état dans l'état.
Oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est une zone vraiment très protégée. Et mis à part les Capucins qui sont un petit peu représentés au début de la BD, on n'a pas vraiment accès visuellement à l'Arsenal, quoi. Une partie de la vie de la ville de Brest. Beaucoup de gens ont travaillé et travaillent à l'Arsenal, donc oui, forcément.
Mais d'entrée, on est dans la lutte. Ton père a mis tout de suite, dès les premières planches, il met dans la lutte et dans la vie de Le Gall et de Pougam. D'entrée.
Oui.
C'est un parti pris.
Après,
est-ce qu'il a laissé des notes pour expliquer?
Non. Alors, moi, à ce niveau-là, je pourrais pas répondre à sa place, malheureusement. Mais j'ai pas beaucoup d'éléments qui pourraient indiquer pourquoi il a fait ça, pourquoi.
En tout cas, c'est saisissant.
Oui, c'est vrai que.
On est pris à la gorge. On est tout de suite pris et entraîné dans cette histoire.
Oui, c'est
vrai. Et on ne lâche la BD qu'à la fin. Vraiment. Non, mais je l'ai lu d'un seul tenant.
D'accord, ouais.
Ah ben je le dis.
Oui.
Et je conseille aux auditeurs de faire pareil.
Ouais, ben merci, c'est très gentil.
Au bout d'une heure et quart, vraiment, et de revenir et de bon.
Oui.
Je suis revenue ensuite
ouais,
pour
préparer
l'émission pour poser des questions et tout le reste. Mais on la lit, on ne s'arrête pas. Ton père a vraiment réussi de ce côté-là.
Oui, c'est vrai qu'il a. Un talent merveilleux. Hein. D'ailleurs, moi j'ai retrouvé plusieurs autres dessins qu'il avait fait, et puis c'était un style complètement différent de la BD.
Oui.
Je pourrais pas l'expliquer comme ça, mais ça avait rien à voir, quoi. C'était vraiment quelque chose. On aurait présenté plusieurs de ses dessins en ne l'indiquant pas que c'était le même auteur.
On n'aurait pas pu le croire.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Alors, nous allons faire une pause, David,
oui.
Et nous allons revenir en deuxième partie pour expliquer l'histoire de la BD.
Regarde la tavole, elle a les seins gonflés, la marée de toutou, de la déshabille. Les bateaux comme les filles, ça fait bien des chichis, mais ce genre de bateau, ça drape pas dans Paris. Dans les yeux de la mer et la gueule d'un bateau, les marins c'est marrant, même à terre, c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien, de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin. C'est pas comme un avril 68, louchu, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait, on était trois copains avec une tragédie, et puis ce chien perdu, tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, homme ou chien c'est pareil, on les regarde naviguer, et dans les rues de l'Orient, ou Brest pour les sauver, y a toujours un marin qui rallume son. Regarde à la taquille, à la mer en elle, la marée de tonton, de la tonton, j'ai peur. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquet, mais quand on se voit l'eau, faut savoir naviguer. T'as le cœur comme ses robes vêtues de chantilly, quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit. Ta maman t'accrochait deux encres aux doigts de chair, et les lignes de ta main s'assouillent au fond de la mer. « C'est pas comme un avril 68, bouchu, tu t'en souviens, dans ces rues de l'emmerde, on était trois copains, au bout de mille nuits, et le jour qui se pointait, afin que rien ne se perde, quand la mer se ramène, avec des étrangers en Bretagne, toujours, la crêperie d'à côté, et un marin qui file, une bonne crêpe en Simon, tellement il y a fourré, des tonnes de sentiments. Regarde la tabarre comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros trash. La mer à ses anglais, avec le drapeau noir, on dirait 68 qui sent rien du trottoir. Maman, ma cousine, gueule de chimpanzé, si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré. C'est pas comme en avril de mon cul, dans ce bar à danser au destin de la rue. Et c'est pas comme demain, en l'an de l'an 10 000, le chute du temps souvient, c'était beau dans ce temps-là, la mer dans les soleils, avec ou bien sans quille, un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie, et quand on se ramenait avec nos galaxies, ça faisait un silence à vous mourir d'envie, et les soirs d'illusion, avec la nuit qui va, dans Brest ou dans l'Orient, on pleure et on s'en va. L'an 10 000, bouchu, tu te rappelles? L'an 10 000, tu te rappelles? Bouchu, l'an 10 000.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission de Groupe Louise Michel, avec mon invité David Foinon.
Oui.
Nous revenons sur Gueule d'or, la BD écrite par son père, mm-hmm. Christian Foinon, et éditée avec l'aide des amis de Christian Foinon. Alors, je voudrais, David, qu'on explique, peut-être pour ceux qui ne sauraient pas, ce que c'est que l'Arsenal à Brest.
Alors, l'Arsenal, c'est une partie du port de Brest qui est sous le joug de l'armée. Donc, c'est vraiment l'un des ports principaux de France, quoi, à l'époque. Et puis, c'est là où tout le côté armement fluvial. Et oui, bateau, tout ça, s'y construit, quoi.
Mmh. Donc, d'où le paradoxe de gens comme Jules Le Gall et Victor Pangam d'être obligés de travailler pour les militaires alors qu'ils sont anarchistes.
Bah, tout à fait.
Et antimilitaristes.
Tout à fait. Après, c'était, c'était le poumon.
Économique de la ville.
Voilà, c'est ça.
Et ça le reste encore à l'heure actuelle.
Oui, un petit peu. Après, je m'y connais pas trop à ce niveau-là, mais oui, c'est vrai que ça reste peut-être le deuxième ou troisième port militaire de France, peut-être. Peut-être que je dis des bêtises, mais ça reste quand même assez important, oui.
Bien. Alors, dans la BD, ton père montre en image la révolte du 27 avril. C'est incroyable. Je ne sais pas comment il a eu l'idée de faire ces images, mais elles sont d'une force incroyable. Si on veut comprendre la répression, on veut se référer à ce qui s'est passé à la Commune de Paris et tout le reste, toutes les répressions contre les syndicalistes, contre les ouvriers, elles sont résumées dans ce livre et elles sont résumées dans les planches du milieu de Gueule d'or.
Oui, c'est vrai que d'ailleurs, ça me fait penser à est-ce que dans l'association, ça s'était dit que il y a pas mal de mouvements de foule dans la BD,
oui,
qui sont très bien représentés.
Tout à fait.
C'est vrai que ça a dû être très compliqué. Après, j'imagine hein, de créer ce mouvement, cette impression de. Comment dire cette impression
de densité
voilà c'est ça merci voilà. De densité tout à fait et puis de violence quoi parce que c'est vrai que quand on voit les dragons chargés. Le sabre à la main qui prend quand même quasiment la moitié d'une page je crois ou
ah oui.
Le quart je sais plus
tout à fait
mais ouais c'est
et quand on voit les ouvriers se défendre
ouais bien sûr oui qui n'hésitent pas à
mais ils n'ont pas le choix
bien sûr mais oui mais
ils n'ont pas le choix
des fois
ils n'ont absolument pas le choix.
Ou pas le choix, la peur prend le dessus, bien sûr.
Ben oui, quand l'autre dit charger, on voit la planche, il charge.
Ouais, c'est ça, bien sûr.
Et les ouvriers se défendent comme ils peuvent. Il faut bien voir qu'en face, ils ont des armes et les ouvriers n'ont que leurs poings.
Ben oui, ça se passe plus ou moins toujours comme ça aussi. Hein. Mais ouais, et puis en revenant sur la révolte, bon, il y avait les ouvriers de l'arsenal, bien sûr, mais il y avait aussi les dockers qui étaient très très présents à ce moment-là, qui brandissent leur drapeau noir à fanion rouge.
Oui.
Et puis il y avait pas que forcément, il y avait les coiffeurs, les boulangers, tout ça qui étaient venus les rejoindre. Oui.
Et ça c'est le travail de Le Gall, c'est-à-dire qu'il a réussi à rassembler au-delà de la corporation des prolétaires. Il a réussi à les petits artisans, tout le monde, parce que l'ennemi c'est vraiment le bourgeois.
C'est ça, tout à fait le bourgeois. Et puis bon,
qui n'en peut plus. Qui ne redistribue pas et qui ne fait que prendre.
Tout à fait, c'est ça.
Ça nous rappelle quelque chose à notre époque.
oui, bien sûr.
Rien n'a changé beaucoup.
Pas grand-chose a changé, malheureusement. Et puis bon.
Mais sauf que le bourgeois maintenant s'appelle les actionnaires.
Oui, c'est ça. Le nom est différent, la propagande est différente, mais
le résultat est le même.
Le résultat reste le même, évidemment. Ce qu'on a bien vu avec les Gilets jaunes.
Oui, tout à fait.
La répression reste plus ou moins la même aussi, malheureusement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre je voudrais juste si c'est possible de parler de ça maintenant
oui.
Parler un peu des bâtiments de Brest parce que Brest avait été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Les bâtiments qui sont dessinés dans la BD ne ressemblent quasiment plus du tout à ce qui est maintenant quoi.
D'accord.
À Brest. Donc si jamais un jour les auditeurs vont à Brest,
ils vont être étonnés.
Ça ressemble plus du tout à ça. Comme on voit sur la couverture de la BD, en fait, c'est la tour Tanguy.
D'accord.
Au moment de la BD était habité. Mm-hmm. Et en fait maintenant ça ressemble plutôt à une tour de château fort. Elle est quasiment en face du château de Brest en fait.
D'accord.
Voilà. Donc le château de Brest est dans la BD, il est dessiné. Donc celui-là par contre il a pas beaucoup changé. Mais on voit le pont de recouvrance. Qui a bien changé plusieurs fois d'ailleurs. On voit aussi l'anse de Saint-Marc qui est, maintenant une plage avec un petit port de plaisance.
Oui.
Voilà. On y voit aussi la Bourse du Travail qui n'existe plus, comme elle est représentée aussi.
Oui.
Après il y a d'autres bâtiments mais Il y a des noms qui ont changé aussi. La place du champ de bataille qui est dessinée sur le dans la BD maintenant s'appelle la place Wilson, avec la Banque de France qui est sur cette place.
Ah oui, ça n'a plus rien à voir.
Non, c'est plus du tout pareil. Je voulais ajouter aussi que en fait les bâtiments qui sont dessinés dans la BD sont fidèles à la réalité, car ça a été pris par rapport à des photos en fait du vieux Brest, quoi, du coup.
Ah oui, ton père a reconstitué carrément le vieux Brest.
Oui, tout à fait. C'est comme on peut voir sur la page 31, on voit la ferrure des lanternes et tout ça, et sur la photo qui est au début de la...
Ah oui, il y a effectivement
les mêmes ferrures et tout ça.
Ouais. Ah oui,
c'est vraiment très fidèle à la réalité d'avant.
Alors, c'est à la fois un travail historique,
oui.
Ethnographique,
oui.
Militant, tout syndicaliste,
oui.
Et une bande dessinée.
C'est
un roman graphique, c'est tout à la fois.
Oui.
Et c'est la raison pour laquelle je ne saurais recommander aux auditeurs d'aller à Publico et de l'acheter. Parce qu'elle est en dépôt à Paris, à Publico. Je crois qu'elle est en dépôt dans quelques librairies à Paris, mais chez nous d'abord, principalement.
Je crois qu'elle est seulement à Publico. Par contre, je dois aller en déposer ce week-end à l'association Substantielle, qui est, je sais plus exactement où, mais voilà.
D'accord.
Voilà pour les lieux de dépôt à Paris. Sinon, il est toujours possible de la commander.
Alors, tu vas nous préciser ça. Comment peut-on la commander, David ?
Il suffit de nous envoyer un mail à les amis de Christine. Les amis de kf@riseup.net.
D'accord.
Voilà.
Bien. Donc, elle vaut 15 euros. Il y a le prix du port.
Ouais, le port, c'est 6,30 €.
D'accord.
Exactement.
Donc, il vaut mieux l'acheter à Publico. Elle est à 15 euros.
Oui, si ça
c'est
vous
possible.
Évite,
ou demander à Publico de l'envoyer.
Oui.
Aussi, c'est possible. Mais bon, si on peut l'envoyer directement par...
Oui, si jamais ils en ont plus, on peut nous contacter sans problème.
Alors, vous avez une page Facebook.
Oui. Et c'est les amis de Christine Foinon.
D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne à Jules Le Gall. Il y a une deuxième journée qui a été importante pour lui, c'est lorsqu'il est dénoncé en tant que franc-maçon,
oui.
Et envoyé à Buchenwald.
Oui, tout à fait. Bah oui, du coup, il est dénoncé, il est envoyé à Buchenwald, et puis malheureusement, il meurt là-bas, quoi.
En 1943-44.
Ouais, 43-44. Je crois que c'est 44.
44. Ouais. D'après la BD, c'est 44.
Oui.
Voilà. Donc, je voulais vérifier aussi quelque chose que je... Et Victor Pingam.
Pingam, ouais.
Pingam, pardon. Je vais y arriver.
Pas mal, hein.
Lui, par contre, il est mort avant.
Oui, il est mort jeune. Alors, la date, je ne me rappelle plus bien, mais je vais vous dire ça tout de suite. En 1922.
Voilà.
Voilà. Ouais, il est mort. Je sais plus pourquoi, comment il est mort d'ailleurs. Mais oui, il est mort assez jeune.
Mm-hmm.
Gazé, je crois. Ouais, c'est ça, gazé.
Tout à fait. Voilà. Donc, alors, je voudrais que tu me fasses l'honneur de lire l'extrait de la quatrième de couverture de la BD,
avec plaisir,
qui est un extrait des déclarations de Jules Le Gall, alias Goldor, lors de son procès aux assises du Finistère à Quimper le 28 et 29 octobre 1907, s'il te plaît, pour donner une idée du personnage aux auditeurs.
Oui. Alors du coup, je cite, « Je ne suis ni un saint ni un sanguinaire, je suis tout simplement révolutionnaire et je le revendique. Je suis révolutionnaire parce que j'ai souffert, parce que j'ai vu les gens souffrir, parce que je vois partout souffrir. » Lorsqu'à l'âge de 10 ans, je perdis mon père, j'ai su ce qu'était la souffrance. Notre vie nouvelle, celle que nous rêvons, consiste dans le collectivisme ou le communisme, selon la mentalité de ceux qui voudront choisir. le salariat disparaîtra et sera remplacé par le collectivisme ou le communisme. Voilà ce que j'ai toujours soutenu. Et c'est pour cela que je suis partisan de la grève générale. Je crois, moi, qu'elle est possible. On vous a dit qu'elle peut venir dans un an, dans 10 ans, dans 1000 ans. Je dis qu'elle éclatera demain. Je le souhaite, je l'espère.
Voilà, tout est dit.
Tout à fait. Très belle parole.
Voilà. Merci, David. Bon. Alors, je rappelle les références de la BD. Gueule d'or, donc alias Jules Le Gall.
Tout à fait.
De Christine Foinon et de Marine Sumer City.
Tout à fait, c'est ça.
Aux éditions KF, c'est-à-dire Christine Foinon.
Oui.
Édité par les amis de Christine Foinon.
C'est ça.
Alors, je rappelle qu'on peut se la procurer à Publico. Alors, Publico est ouvert le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi de 13h à 19h30, le samedi de 10h à 19h30, et à partir du 18 juillet, Publico n'ouvre plus le dimanche. Elle sera fermée du 8 au 23 août, et nous reprendrons les activités à Publico à partir du 23 août au matin. Donc, pour se procurer la BD Gueule d'or, donc c'est à Publico, ou sinon par correspondance, pour contacter les amis de KF, tout attaché, @risup.net. Voilà, j'ai tout donné ?
Oui, c'est ça.
Parfait. Bien, ben je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite de bonnes vacances. Pas de quartier sera rediffusé au mois d'août. Nous reprendrons nos émissions au mois de septembre, si tout va bien. D'ici là, passez de bonnes vacances, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Dis-moi, quel est ce monde que je ne comprends plus? Si c'est ça mon pays, si la France est perdue, si Paris sous les bombes a le sourire vermeil, si je crois les colombes ont pris du plomb dans l'aile, quand les news du matin ressemblent aux champs de ruines, quand pour ton pain mon vieux, ouais putain tu tapines, quand ils t'ont bien baisé, quand nos gouvernements ne sont ici que pour protéger les puissants, tu la sens la pilule, à le goût du cyanure, quand même la caresse, à le goût des blessures, quand sont ceux qui tolèrent, qui sont plus tolérés, quand devient une insulte de parler français aux enfants des progrès qui vantent leur histoire sur réseau en photo pour un peu d'illusoire de tout bord. Si je crois, c'est toujours les fascismes ici qui font la loi, font leur colonialisme. Quand c'est l'instruit toujours qui combat la censure, quand la bêtise humaine a la parole, c'est sûr. Quand c'est l'art qu'on baïonne mais qu'on laisse parler la violence du vulgaire sur les chaînes d'enquête. Quand tes réseaux sociaux ne servent qu'aux insultes, qu'à la pensée châtiée au profit de l'inculte, quand c'est la pourriture qui devient la culture, quand c'est ton pays, l'état d'urgence bien sûr, quand on attend de ceux-là qui poussent un ballon, de porter le drapeau, de porter la nation, quand on laisse parler ceux qui savent pas lire, quand le peuple a besoin d'un iPhone pour écrire, quand la littérature vaut moins que tes billards, quand le goût du cyanure, ouais, c'est la fin du mois, entre peuple lecteur et peuple follower, si la France a choisi, putain j'ai mal au cœur, quand sont les travailleurs devenus les parias, quand l'humain ne sait plus ni pour qui ni pourquoi, quand le siècle perdu n'offre que les combats, puis quand la bête humaine parle de Dieu je crois, dis merci à ton maître qui toujours les chine, au culte du paraître, à la mort des usines, à ces préfabriqués qui brûlent les collines, de l'espoir qui s'éteint, du populaire qui chie, suicide humanitaire, suicide humanité. Sur les trottoirs, toujours les peuples déchoués. Nos gueules de sang dents et nos gueules défilées. Du cerveau des bestiaux, c'est la loi des marchés. Camarades présidents, des temples sans-abri, des actionnaires du monde, des cimetières à crédit. Camarades présidents, de la finance ordure, des usines fermées sur pour les pourritures. Camarades présidents, des tours de la misère, tu t'as vu les loyers de la France. Populaire, camarade président, du pétrole à la pompe, des comptes à l'étranger, des actions qui montent. Camarade président, des gamins fusillés, camarade président, des milices à Calais, camarade président, du peuple fatigué, camarade président, de se faire enculer, camarade président, du peuple descendant à la
solde, mes dettes, des capots, des petits chefs. Camarade président, tu baves un beau facture. Non me dis pas que ça va pour la sécu, c'est sûr. Camarade président, 5 millions de chômeurs. Camarade président, tu crois pas qu'il est l'heure. Camarade président, ouais, camarade Twitter, je change quelque chose à la France qui meurt. Camarade président, putain, ça va péter. Camarade président, ta bourse va cramer. Camarade président, tu démocrate progrès, qui veut qu'on aille voter sur mon bouchon son nez. Pour le prof tabassé, pour la pornocratie, pour l'esclave salarié par la mort à crédit, pour le peuple échoué sous les tentes à Paris, pour l'accent circonflexe, les chapeaux sur les i. C'est la lutte et je crois, mes amis, mes frangins, qu'il est l'heure de brandir le drapeau de l'humain. Qu'il est l'heure, cœur serré, de sauver la récolte. Qu'il est l'heure, point levé, de sonner la révolte.
Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit du jaune tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge, il y aurait d'un gain, sans oublier de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes, monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, on m'a cassé les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, à quoi sous la preuve. La rage, c'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'ai joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que j'en aurais cyanure, et s'ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends des terres. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les musées, son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser les défauts de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me piquer futur, la voix trouve la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à sa tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui aussi c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, à quoi trouve la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, à quoi trouve la preuve.